Vivre en éco-village ne signifie pas systématiquement vivre isolé de tout et rejeter tous les aspects du capitalisme. Pour fonder un éco-village, il faut s'entourer de personnes qui ont les mêmes motivations, les mêmes envies et visions de la vie. Comment s'organisera l'éco-village? Comment sera réparti le travail commun? Les décisions seront-elles prises de manière démocratique? Qu'en est-il des questions financières? Acheter un terrain, des maisons, les matériaux, les outils? Tant de questions auxquelles il faut réfléchir avant de se lancer. À travers ce podcast, Kaizen, Colibri et la coopérative Oasis ont voulu donner la parole à tous ces citoyens en transition. Ici, nous apprenons à vivre dans l'équivalence, le respect et le développement des talents de chacun, le livre Isabelle. Écollectif est un éco-hameau situé en Haute-Garonne. Aujourd'hui, 22 adultes et 20 enfants vivent sur les lieux, souvent dans des habitats légers. Le collectif développe de nombreuses activités respectueuses de l'environnement. On y retrouve de l'arboriculture, du maraîchage, des constructions terre-paille, de l'élevage d'alpagas, mais aussi des stages et des formations. Et Collectif souhaite à présent s'ouvrir davantage à l'extérieur et ouvrir un espace de coworking. Dans ce podcast, Isabelle, l'une des fondatrices des collectifs, nous présente la manière dont cet éco-hameau envisage le collectif pour faire avancer les projets individuels. On y parlera de communication bienveillante, de gouvernance, d'éducation, l'un des objectifs premiers du projet. On découvrira les différentes activités économiques mises en place pour rendre ce lieu indépendant, mais tout en gardant le lien avec l'extérieur. Donc comme je t'expliquais, on est en train de faire un tour de France des différents éco-hameaux, éco-villages, habitats participatifs. Et on se rend compte qu'il y en a énormément aujourd'hui en France, donc ça répond vraiment à une demande, à un besoin. Et je crois que de plus en plus de citoyens en fait, sont attirés vers ce type de mode de vie un peu différent. Je vais peut-être commencer par ça, avant de présenter le lieu. Qu'est-ce qui fait selon toi qu'il y a un engouement aujourd'hui pour ce qu'on appelle les oasis ?
Je n'avais pas prévu de parler à la place d'autres gens que moi. Moi, je sais pourquoi je suis là en tout cas. Je sais que j'avais envie de vivre dans un lieu qui me semble propice à l'épanouissement des êtres humains petits et grands, et que ça me semblait plus propice de vivre comme on vit ici que dans un quartier, bien qu'on peut être heureux dans un quartier aussi quelque part de ville, ou en tout cas chacun chez soi. On est chacun chez nous ici quand même, mais... Je me sens pas très habilitée à dire pourquoi les autres ont envie de ça, quoi. Moi oui, je sais. En fait, j'ai eu envie de vivre dans le lieu que j'aurais rêvé de connaître quand j'étais enfant et quand j'étais maman, en fait. Donc, j'imagine qu'il y a des gens qui me ressemblent et qui pensent que c'est une bonne idée aussi.
Alors, ce lieu, on va lui donner une dimension visuelle. Donc, on est dans un endroit qui s'appelle Écollectif. J'aimerais qu'en fermant les yeux, ou que quand l'auditeur puisse fermer les yeux, puisse un peu avoir une dimension visuelle de l'endroit où on se retrouve maintenant.
On a 46 hectares de prairies, de bois et un petit peu de land. On a un corps de ferme. Et on a des yourtes où les familles habitent chacune dans un endroit différent du terrain, mais pas dans les terres les plus éloignées du corps de ferme. On va dire que le corps de ferme, c'est vraiment un peu le centre-village où on a les maisons communes, où on a une grande salle polyvalente et où on a beaucoup de petites salles pour des activités comme la musique, la peinture... le travail, on a même une salle d'activité un peu zen, on a plein des salles de bain, une buanderie, une épicerie. Et on a aussi un four sur la place du village et des tables pour les repas communs. On a à la fois un maraîchage collectif donc sur à peu près 3000 m², avec deux grandes serres et une petite serre de pépinière. Donc où on produit maintenant pratiquement suffisamment de légumes pour toutes les familles ici, pour presque toute l'année. Et en plus, il y a des gens de passage qui peuvent se nourrir avec ça. Et puis, on a chacun des jardins autour de nos yourtes aussi. Bon, moi, j'ai un jardin perso. Il y a aussi des équidés. Il y a aussi un troupeau d'alpagas qui correspond à un projet agricole particulier d'une famille. Le maraîchage, c'est à la fois une maraîchère, mais à la fois autour de ça, il y a du maraîchage collectif. Il y a aussi un pépiniériste qui a un espace qui est un peu, pour moi, un petit endroit de paradis terrestre avec vraiment c'est le style forêt nourricière où il y a des choses à manger, c'est très beau, partout qui pousse dans tous les sens. Et voilà, et on est dans, pour situer ça de façon un peu plus largement, on est dans un paysage de coteaux, coteaux-vallons. Donc notre espace, c'est tout un coteau jusqu'à au bas des deux vallons qui sont de chaque côté où il y a une rivière dans chacun. Du coup, on a accès à des rivières, on a aussi des sources et aussi des mares sur le lieu. Tout ça, c'est orienté en direction des Pyrénées qu'on voit d'ici. Le climat est assez doux pour qu'on puisse produire de la nourriture toute l'année. Il y a suffisamment d'humidité, de pluie, de pluviométrie pour que on souffre pas trop trop de la chaleur et de la sécheresse ici.
Ça permet de poser un peu le cadre et le décor. Mais pour revenir au projet, à l'origine du projet, donc Écollectif, c'est quoi? Comment s'est créé ce projet? Qui était à l'initiative? Et comment est-ce qu'on arrive à l'incarner petit à petit? Il faut trouver le terrain, il faut trouver les forces vives.
Eh bien, c'est arrivé dans ma tête au début. Disons que j'accompagnais des groupes et des individus autour de la transmission de la CNV, de la communication non violente, de la sociocratie. Et j'étais très très passionnée de quoi on a besoin quand on est enfant et quand on est parent. Donc tout ça, je le vivais déjà, mais sur un plan soit perso-perso, familial, amical, soit sur le plan professionnel. Et à un moment donné, j'ai eu envie de voir advenir un espace où il y aurait une sorte de laboratoire d'expérimentation, enfin un endroit expérimental pour vivre sa grandeur nature, en fait, pas juste moi personnellement ou dans mon boulot, mais vraiment dans une vie sociale beaucoup plus largement partagée. Et ça a commencé vraiment à être clair pour moi en 2008. Et en 2009, j'ai lancé la première invitation auprès de gens qui étaient non pas des amis à moi, enfin c'était pas pour ça que je les... mais des gens qui étaient passionnés par la CNV, la communication non violente, la sociocratie, donc des gens que j'avais rencontrés au cours de formation que j'avais suivi moi. Donc j'ai invité ce type de personnes-là. Et on a fait un peu un levain au départ avec des gens qui avaient envie de se projeter dans le rêve beaucoup et essayer de donner un peu une dimension concrète au début sous forme juste de, pas tout à fait au début, mais assez rapidement. On s'est réunis 2 week-ends par mois et on était adultes et enfants, on était peut-être une quinzaine de personnes à se frotter, à faire des cercles, plein de cercles sociocratiques, mais un peu, je le dis souvent, ça, dans l'esprit de... Dans la nature, les jeunes, ils apprennent en jouant et ils jouent en apprenant. Il n'y a pas jouer d'un côté et apprendre de l'autre. Et nous, on a joué en fait. On a joué à la sociocratie, on a joué à rêver, on a joué à faire des petits pas progressivement. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, en 2010, on se dise, notamment en étant inspiré par le livre de Diana Leaf Christian, dont vous avez déjà entendu certainement parler, Vivre autrement. On s'est dit, bon, là, on était en Rhône-Alpes et on voyait qu'il y avait plein de gens qui nous disaient, votre projet est génial, mais pourquoi dans le sud-ouest? Moi, j'avais dit, je veux que ce soit dans le sud-ouest pour toutes sortes de raisons. L'idée, ça a été de se dire, bon, allons trouver un lieu provisoire, installons-nous sur place et continuons à évoluer. Donc, du groupe de départ, il y a certaines personnes qui n'ont pas été jusque-là. Et puis, entre-temps, ben, là, on avait rencontré dans nos prospectives, on avait rencontré d'autres personnes qui nous ont rejoints. Et voilà. Et du coup, de la première réunion, il n'y a plus que moi ici. Et du groupe qui a acheté le lieu, donc ça a été en 2012, ça. On est resté un an dans un hameau provisoire dans le coin et au bout d'un an, on a acheté. Eh bien, de ce groupe-là, on n'est plus que cinq. Donc, il y a une espèce de... J'aime pas le mot turnover parce que souvent, du turnover, on dit turnover. On dit, c'est comme s'il y a un problème, il y a du turnover. Et dans le monde du travail, c'est souvent associé au malaise, quoi. Et du coup, je n'aime pas ce mot, mais n'empêche qu'il y a des vagues, en fait. Il y a les rêveurs du début, il y a des gens qui sont là quand il s'agit de s'engager, de prendre des décisions pour par exemple, des structures juridiques, financières et tout ça, prendre ses décisions, acheter, arriver. Et puis il y a des gens qui sont là après et encore. J'ai l'impression qu'il y a des profils, je pourrais pas le systématiser, mais en tout cas, de gens différents aussi qui arrivent. Et du coup, là, ben, on continue à avoir de nouvelles personnes puisqu'on n'est pas, on est au début prévu le projet pour 40 adultes et plein d'enfants, donc peut-être une trentaine ou une quarantaine. On a beaucoup d'enfants ici parce que c'est beaucoup centré aussi sur le bien-être des parents et des enfants, même s'il y a des gens qui n'ont pas d'enfants qui habitent là. Et du coup, sur ces 40-là, on n'est pas du tout encore là. On est plutôt une vingtaine d'adultes et une petite vingtaine d'enfants là pour l'instant. Du coup, on continue à recruter. On se dit qu'on n'est pas forcé maintenant, pour des raisons financières, d'aller jusqu'à 40 adultes. Mais voilà, peut-être on s'arrêtera autour de 30, 35. On ne sait pas. On va voir. Mais on continue à grossir. Et du coup, la réponse à ta question, c'est comment ça se fait? Avec qui, et voilà, bah ça se fait comme ça, de façon un peu organique. Et en même temps, enfin, j'attends tes questions
Oui,
prochaines.
mais c'est vrai que tu m'as emmené dans plein de domaines différents, donc on va un peu décortiquer ta longue réponse. Peut-être en définissant les termes que tu as employés au début de ta réponse et qui reviennent dans tous les collectifs qu'on découvre et qu'on visite, la CNV, la communication non violente, et la sociocratie, qui est un système de gouvernance. Dans le collectif, effectivement, il faut qu'on arrive à avancer ensemble, à se mettre ensemble d'accord. J'aimerais que tu me définisses ce que c'est que la sociocratie et la CNV, l'importance de la CNV dans le collectif.
Alors, il se trouve que CNV et sociocratie sont assez intriqués parce que, par exemple, en France, c'est l'association ACNV, Association pour la communication non violente, qui a importé en fait la sociocratie parce qu'ils cherchaient un mode de gouvernance qui soit cohérent. Donc, la CNV, communication non violente, ou moi, enfin, mes formations, je les appelle formations à communication authentique, bienveillante et créative. Ça tombe bien, ça fait ABC. Et du coup, ça, c'est l'idée, en fait, d'avoir une communication qui se base sur la connexion plutôt que sur forcément à quoi on veut arriver ensemble tout de suite, mais à vérifier la connexion entre les gens avant d'essayer de coopérer, par exemple. Et du coup, c'est très complémentaire avec la sociocratie.
Pour la CNV, peut-être un exemple concret.
Donc, je vais essayer de prendre vraiment la responsabilité de ce qui se passe pour moi. Et prendre la responsabilité de ce qui se passe, c'est être capable d'en prendre conscience, de le communiquer et ensuite de prendre en main en fait les demandes que j'ai à faire pour satisfaire mes besoins. Donc on parle beaucoup de besoins en communication non violente. Plutôt que d'attendre que l'extérieur réponde à mes besoins, ce qui est parfaitement légitime quand j'ai 3 ans, 4 ans, même 15 peut-être, mais en tant qu'adulte, plutôt qu'attendre de l'extérieur qu'on prenne en main mes besoins, qu'on devine ce que je ressens. Donc je vais essayer plutôt de le dire, de faire des demandes et d'accepter que le monde n'est pas là pour m'apporter satisfaction, mais que moi, oui, par contre, je suis là pour ça. Et que du coup, ça demande beaucoup de. Ben, ça, c'est dans nos fondamentaux, c'est notre fondamental numéro un, ça, avec l'inspiration CNV en particulier. Ça demande de grandir en fait, d'accepter que l'autre ne soit pas forcément d'accord et qu'il faille parler, communiquer, écouter et chercher des solutions ensemble. Par exemple, ben, quand tu me dis que tu as l'impression que cette commission a été créée contre une famille X, je me sens triste parce que pour moi, mon objectif était vraiment amener de la paix dans les collectifs. Et j'aimerais, est-ce que tu serais d'accord de me dire comment tu entends ce que je viens de te dire? Enfin, et l'observation dans la CNV, j'ai pris récemment conscience que ça a une dimension énorme, beaucoup plus que ce que j'imaginais. Je voyais quelque chose de plus intellectuel. Je dis ce que j'observe plutôt que des jugements. Mais en fait, c'est plus que ça. C'est je vais partir de la réalité telle qu'elle est. Donc ça a un côté un peu bouddhiste aussi, je voudrais dire. C'est je vais commencer par adhérer à la réalité. Quelle est la réalité là? C'est tu as dit cette chose-là. Ce que j'en pense et ce que je peux en croire, c'est autre chose et je vais laisser ça de côté. Je vais dire, tu as dit ça. Ok. Qu'est-ce que je fais avec ça? J'observe ce qui se passe en moi. Et ben, je me sens un peu triste ou nette. Et c'est quoi mon besoin? Et ben, ce serait de partager cet immense élan que j'ai d'amener de la clarté et de la paix Et du coup, moi, je vais faire une demande pour te retendre le micro en quelque sorte, te dire, ben, si tu veux bien me dire ce que ça te fait à ton tour, je suis prête maintenant à écouter. Parce que ma demande là, c'est pas que tu fasses quelque chose tout de suite, là, ce serait plutôt de te connecter.
Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi, ou selon toi, pourquoi la CNV est très employée dans la plupart des collectifs?
J'ai l'impression que la démarche d'aller vers des collectifs, d'aller vers une vie avec en visant plus d'autonomie par rapport au système qui est en train de bouffer notre monde, notre planète et tout ça. Enfin, je pense qu'il aura pas le dessus parce que la planète elle est plus costaud que nous, mais quand même, en tous les cas, on se sape nos propres conditions de survie. Eh bien, c'est une démarche de responsabilité. Et la CNV, c'est vraiment pour moi aller chercher à la fois la responsabilité et la pleine liberté d'être qui je suis, tout autant que la bienveillance et l'honnêteté. Quand j'explique la CNV, je fais un carré et je dis, bah, c'est allier tout ça. Et du coup, ça me semble assez logique qu'un langage de responsabilité puisse inspirer et sous-tendre et aider, favoriser une démarche de responsabilité. Voilà ce que je peux t'en dire là tout de suite d'impro.
Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui font le choix du sens et de la cohérence.
Le lieu s'appelle Écollectif. On parlera un peu plus tard du système, enfin du collectif, ce que tu entends par collectif, mais on voulait aussi parler de la gouvernance, on parlait de la sociocratie.
Donc la sociocratie, je peux t'en donner une définition un peu toute faite, c'est l'art de partager le pouvoir sans le diluer. Et du coup, ce sont des processus, il y a plusieurs processus qui permettent à chacun d'avoir vraiment son espace de parole et de ne pas rentrer dans des débats avec du ping-pong, avec mélanger les émotions, les croyances, les jugements. Les questions et voir de partir à donner son avis quand on n'a pas vraiment clarifié de quoi on parlait ou tout ça. Donc ces processus-là permettent de prendre des décisions, on appelle ça au consentement, c'est-à-dire à zéro objection. Et donc depuis absolument le début, en 2009 jusqu'à aujourd'hui, où on gère 46 hectares, c'était un budget de départ de 500 000 euros, ce qui est peu d'ailleurs par rapport à d'autres collectifs, notamment urbains bien sûr. Mais en tout cas, tout ça et beaucoup de familles, là pour l'instant, donc on est une quarantaine, on a été jusqu'à 45 habitants, et beaucoup de choses qui se passent avec les vies personnelles, de couple, de famille, de boulot et de collectif. Eh bien, on a jusqu'à présent pris 99,99% des décisions de cette façon-là au consentement de tous, alors qu'on pourrait imaginer que c'est complètement utopique de fonctionner avec ça. Nous, on l'a expérimenté. Et oui, quelqu'un pourrait me dire, oui, mais là, tu vois, on n'a pas fait tout à fait ça. Alors oui, mais en tout cas, on essaye de prendre toutes les décisions en prenant soin que la vie de chacun converge vers la solution qui sera la moins pire, ou en tous les cas celle qui peut marcher, sans forcément chercher la meilleure solution qui puisse être imaginée.
Avec ce système de cercle, on va dans un premier tour du cercle reposer, reformuler le projet pour être sûr qu'il soit compris par tous, parce qu'il y a souvent ça, ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on entend et ce qu'on comprend. Oui. Donc il y a différents filtres dans la communication, donc ça permet vraiment de poser une bonne base pour parler la même langue.
Oui, alors pour ce que tu dis, en fait, ce qui se passe, c'est que pour chaque point, il y a une personne qui est porteur de points, point à l'ordre du jour, s'entend, une personne qui va exposer le point, et ensuite on va faire un tour de clarification. Nous, des fois, on fait clarification et réaction, mais parfois, on fait bien comme on nous a appris séparément. Et donc, le tour de clarification fait que chaque personne peut dire, est-ce que j'ai bien compris ce dont tu voulais parler? Et du coup, ça permet de réagir sur une base claire. Et c'est très intéressant de faire le tour de cette façon-là, parce que chaque personne qui pose une question de clarification peut me révéler un point dont j'avais même pas vu que je ne l'avais pas compris, en fait. Et du coup, ça permet d'aller beaucoup au-delà de ce que moi j'aurais posé toute seule comme question. Donc ça s'appelle l'intelligence collective. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va donner nos réactions. Et ensuite, on va revenir au porteur de points qui peut-être a une proposition, mais ça peut être quelqu'un d'autre qui en tire une proposition. Et à ce moment-là, on va faire un tour, on va faire deux tours pour avoir... Alors d'abord, on va chercher à bonifier cette proposition en pop-corn. C'est le seul moment du cercle où on est en pop-corn. C'est-à-dire chacun dit, lève la main et parle, mais au lieu de faire des tours, sinon on parle en tours, on parle tout le temps en tours. On finit par plus avoir envie de faire autrement d'ailleurs, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'avantages à ça. Et donc de temps en temps, on est comme ça, chacun à dire, ben moi je propose qu'on fasse ci pour améliorer la proposition. Et à ce moment-là, il y aura les deux tours d'objection. Le premier tour, on dit oui ou non. Donc on dit pas d'objection ou objection. Et au deuxième tour, le facilitateur va revenir aux personnes qui ont eu une objection pour qu'elles formulent leurs objections. Et à ce moment-là, on va chercher encore à bonifier la proposition. Mais souvent, comme on a l'occasion de réagir, donc de dire comment on se sent par rapport à la proposition d'une part, et d'autre part, comme on a l'occasion de bonifier la proposition avant qu'elle passe en objection, il y a quand même beaucoup de nos propositions qui sont à zéro objection au final de tout ce travail-là.
Consentement, consensus, c'est la même chose au consensus ?
Non, le consensus, c'est ce que tout le monde préfère. Enfin, c'est comme ça que j'ai compris, en tout cas, la différence. Alors que le consentement, c'est « je peux vivre avec ça ». Ça baisse le niveau d'exigence, mais ça permet quand même que tout le monde puisse dire « ok, je peux vivre avec ça ». Alors, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas zéro objection ? Eh bien, on peut baisser le niveau en disant « bon, on va faire ça à l'essai, si tout le monde est d'accord. Ça peut faire que quelqu'un soit d'accord. Si on décide de faire ça 2 mois à l'essai, par exemple, ça peut entraîner que la personne change, lève son objection, on dit. Ça peut être, on décide de retirer la proposition. Ça peut être, on va faire des interviews de toutes les familles pour travailler à améliorer la proposition. Ça peut être... On passe la main à une commission, puisqu'on a plusieurs commissions qui vivent ici. Soit ça peut être, on va consulter un expert, ou voilà, se renseigner. Il y a plein de choses différentes. Ou alors, on laisse du temps pour que ça mature et que les gens réfléchissent.
Quand on est arrivé ici, tu étais en réunion ?
J'étais en commission terrain. On a relancé cette commission parce qu'il y avait des tensions au niveau des différents projets agricoles et de comment ils étaient perçus. Et il y avait des choses qui avaient besoin d'être clarifiées. Du coup, j'ai relancé avec toutes les personnes qui ont bien voulu la commission terrain qu'on avait déjà eue il y a quelques années. Mais ici, les commissions, elles vivent et elles se mettent en veille, en fait. Et puis après, on les réveille quand il y a besoin.
Ici, et collectif, le collectif, pourquoi vivre en collectif ? C'est une question que je pose souvent, parce que déjà dans la vie de couple, c'est pas évident, la vie familiale, ça rajoute une difficulté complémentaire avec un enfant, et le collectif, c'est encore, donc on a 3 vies, la vie dans son couple, la vie dans sa famille, et la vie dans un collectif.
Ce que je vois, c'est qu'est-ce que ça m'apporte à moi, et qu'est-ce que ça apporte aux gens, et c'est-à-dire, j'entends aussi dans ta question, c'est quoi qui est en commun ici, en fait, et qui fait que ça vaut le coup, en fait ? Ce que je vois, c'est que, je vais te dire des choses très concrètes, je peux partir de chez moi 2 mois, je n'ai pas une seule clé, à part des clés USB, je n'ai pas de clé pour fermer des machins et des trucs, et je peux partir de chez moi, donc quand je pars de chez moi, surtout pour 2 mois, j'ai 2 lacets, je fais un petit nœud avec une petite boucle, et je pars 2 mois, et je sais que ma yourte, elle est en sécurité. C'est trop génial. Je suis célibataire depuis 2012 et je sais que je peux à la fois avoir une énorme liberté parce que j'ai pas à co-créer des trucs, etc. Et en même temps, dès que j'ai besoin de soutien, eh ben, je peux faire du troc, je peux faire des demandes. J'ai été malade pendant 5 semaines en 2018, je crois. Il y a des gens qui sont venus me faire du feu, donc il y a énormément d'entraide. Il y a énormément de liberté. Ici, on est un peu quand même anard sur les bords, libertaire, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien qui est obligatoire une fois que tu es rentré. Pour entrer, il faut que ce soit OK. Et il faut que tu donnes...
Pour entrer dans le collectif.
Pour entrer dans le collectif et que tu prêtes 12 500 €. Ça, c'est obligatoire. On n'a jamais voulu transiger là-dessus. Donc, ça veut dire que tu fais un prêt. Quand tu repars, on te rend ton prêt. Donc, tu investis, en fait, de l'argent ici. Et si tu ne l'avais pas avant, du coup, tu l'as après. C'est trop bien. Une fois que tu l'as gagné.
Processus d'inclusion, on va en parler, oui, mais c'est vrai qu'aussi le côté modèle économique, ça m'intéresse parce qu'effectivement, on parlait d'un... Il y a l'achat du lieu, donc comment ça se passe? Ça passe par une SIC ou...
On racontera ça, mais je reviens sur le truc, pourquoi un collectif? Ensuite, on a des enfants en cohérence avec nos fondamentaux et non parce que c'est obligatoire. La plupart, une écrasante majorité, on va dire, étaient instruits en famille. Du coup, ça veut dire que c'est des enfants qui ont une vie sociale hyper riche, alors qu'ils font l'instruction en famille, chaque famille étant responsable devant la loi et dans les faits de l'instruction de ses enfants, mais ils ont une vie sociale super riche parce que non seulement ils se contactent entre eux, mais il y a plein de familles qui passent, donc plein d'enfants qui passent, et sans parler du fait que ici les gens ont des relations avec des gens à l'extérieur aussi. Donc il y a ce côté vie sociale, entraide. Il y a le côté aussi pour moi qui est important, qui est... Alors, je prétends pas inspirer des gens tant qu'on n'a pas fait des choses, mais là, maintenant, on commence quand même à avoir une dizaine d'années derrière la cravate. Moi, j'ai envie d'expérimenter pour pas que moi, en fait, pour que ça puisse servir. Et je suis ravie de voir qu'il y a tellement de gens qui expérimentent plein de formes différentes de collectifs, ce qui fait que ça incite à la créativité, en fait. Si ça vous tente, vain Dieu, faites-le, quoi. Sortez et inspirez-vous des gens si vous avez envie ou inspirez-vous de vos propres élans intérieurs. Et du coup, il y a aussi cette dimension un peu plus largement politique. Il y a que, aussi, on est plus léger pour la planète parce qu'on met plein de ressources en commun. Donc, nos ressources humaines, mais aussi les ressources matérielles. Ici, on a une richesse hallucinante en gens qui peuvent nous enseigner des machins, en machines qu'on met en commun, en appareils, on met ça en commun. Donc, par exemple, on a 2 machines à laver pour plus de 10 familles.
Dont une à pédale.
Ah, c'est la 3e. On a 3 machines à laver. Oui, on a une machine à pédale à laver aussi qui n'est pas énormément utilisée. Je dois l'avouer, mais quand même, en été, il y a du monde qui y va des fois. Et toutes ces capacités à se réunir pour faire exister des choses qui étaient dans notre cœur, dans notre tête, quoi. C'est une capacité à s'entraîner, à s'entraider, à faire des choses. Donc, il faut aussi avoir vraiment beaucoup de patience. Dans le sens que des fois, ça nous gave d'avoir à passer en cercle, les discussions. Il faut aimer ça, être à plusieurs.
Quand on arrive ici sur le terrain, donc on voit d'abord les alpagas qui nous accueillent, et ensuite on voit des yourtes. Donc ça, c'est assez surprenant, parce qu'aujourd'hui, j'avais en tête que l'habitat léger en France, c'était quand même contraignant de pouvoir vivre en yourte. Comment est-ce que c'est organisé ici? Donc, tu as le bâtiment commun, mais tous les membres du collectif ont chacun leur espace. Hein. Donc, quand on parle de collectif, il y a bien des choses qui sont mutualisées, comme on en parlait, des machines à laver, des salles communes, plus des habitats donc, qui sont individuels, qui sont souvent des habitats légers et mobiles. Donc, comment est-ce que vous avez fait pour avoir le droit de poser des yourtes?
En fait, on vit dans un vide juridique, pour ne pas dire dans la plus complète illégalité, parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on est arrivé, on a été très, très bien accueillis par la municipalité et on a présenté notre projet comme suit au niveau immobilier. On voulait 5 familles en yourte, 10 familles en maison autoconstruite sur une zone constructible et 5 foyers dans les maisons existantes. Or, entre-temps, le PLU qui était pile poil en train de se faire, donc c'était très bien, ils nous ont proposé 1,5 hectare jusqu'à 1,7 hectare. 2 zones constructibles dans tout cet espace-là, où sont la majorité des habitats pour l'instant, dans cette zone constructible. Et le PLU a bugué à un moment donné, ça s'est arrêté. Il y a eu la loi Allure qui a fait peur à des gens. Il y a eu le décès l'épouse d'un des 4 maires qui avait fait le PLU ensemble. Bref, il y a eu plusieurs choses, une succession, et le PLU s'est arrêté. Donc, on est dans une zone où il n'y a pas de PLU, alors que c'est censé être obligatoire maintenant, je crois, partout sur le territoire français. Du coup, nous, entre-temps, en attendant le PLU, ben, on avait mis des yourtes et on avait annoncé qu'on voulait 5 yourtes. Et puis, le PLU, ben, on a mis un temps à réaliser que ça s'arrêtait et que, en fait, le maire, entre parenthèses, nous lâchait, en fait, pour, en ce qui concerne cette zone constructible. Et du coup, entre-temps, ben, on a eu des rapports avec les services de l'État, avec la DDT. Ils sont venus et, en fait, moi, j'ai été convoquée aussi pour témoigner de comment ça s'était passé. Et du coup, on sait qu'on a un dossier dans les archives du procureur de la sous-préfecture là. Du coup, on a mis tout ça à plat. Et cette chose-là a fait que j'ai l'impression, pour l'instant en tout cas, on bénéficie d'une tolérance parce que tout le monde sait qu'on nous a promis une zone constructible, qu'on nous a lâchés, qu'on était plein de familles qui avaient tout lâché pour venir là sur une zone constructible, qu'on a dit encore et encore qu'on était prêt à tout légaliser quand on aurait notre zone constructible, mais que notre projet, il était à 40 familles, enfin pas 40 familles, 40 adultes, donc entre 20 et 25 foyers. Et que du coup, si on ne nous laissait plus vivre dans des yourtes, on ne pouvait plus... voilà. En plus, il y a quand même quelque chose dans le sud-ouest d'assez relax, c'est-à-dire, c'est pas partout, mais en tout cas, on n'embête pas le monde ici, en fait, pour parler très poliment. On est juste chez nous, et je veux dire, je crois qu'il y a des gens qui peuvent faire la différence entre légitimité et légalité, et que, pour l'instant, en tous les cas, il n'y a personne qui nous a dénoncé. On est en toute transparence avec la gendarmerie, la sous-préfecture, la mairie. Ils savent que voilà. Donc pour l'instant, le fait qu'on n'ait pas la zone constructible, ça a un peu orienté notre projet parce que des gens qui étaient vraiment attachés à avoir un habitat légal en dur, ils se sont lassés ou ils ont voulu aller faire ça ailleurs. Du coup, les gens qui sont arrivés là, ce sont des gens qui s'accommodent assez bien de ce statut un peu incertain, un peu insécure, mais en même temps plus alternatif peut-être pour certaines choses. Et d'autre part, ça nous a permis d'avoir cette tolérance particulière parce qu'il y avait une partie de responsabilité qui revenait à l'administration, enfin en tous les cas aux localités.
Isabelle, merci. La Voix des Oasis, c'était Isabelle, l'une des créatrices de cet écolieu et collectif, un lieu où l'éducation est au centre du projet.
La Voix des Oasis, une production d'Alexandre Sattler, à retrouver sur son site internet gaia-image.com.